podcast.com. Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, mon nom c'est Tony Godette, je suis animateur d'un très 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 populaire podcast qui pogne partout jusqu'en France, les vieux pays, hein, on appelle ça terrain basique parce qu'on parle de Magic the Gathering en utilisant notre franc-parler québécois. Tout ça, je suis avec Nonours qui est déguisé en raie, là, ça se voit mal dans l'écran. Mais il y a des humains aussi pour jaser de ça, on a quelques petits sujets aujourd'hui qu'on va développer avec Andy Jacques. Bonjour Andy.
Bon matin, comment ça va?
Ah, ça va rock and roll là. J'étais en train de checker des affaires puis tout là, puis.
Puis moi, je vis ma plus belle vie arénaesque.
C'est
l'amour fou. Mon premier set victoire. Mon deuxième match full pin en fin de semaine, c'est moi qui ai gagné. Mais ça, je vous en parle après les présentations.
Ben ouais, on checkera ça tantôt. On va aller dire salut à Jonathan Gauthier.
Hey, salut Tommy, salut tout le monde.
Ah ouais, notre artiste de résidence qui est en train de nous préparer un nouveau logo, hein, un update de tout le visuel de terrain basique, puis qui nous a aussi choisi une toune à mettre en background.
Oui, ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un album qui s'appelle Until Sunrise par X-Lide, qui est un excellent artiste qui fait des petits chiptunes, des albums complets qui est pas sans rappeler l'ère 16 bits du Super Nintendo. Puis comme je dis toujours, allez voir ce que ça a l'air vendredi prochain sur Bandcamp. Puis sa discographie complète coûte alentour de, donnez-moi deux secondes, 23$ canadiens.
On parle de combien d'heures d'écoute ça, là? À peu près?
Je pense que 2-3 EP, fait que ça donne 2-3. C'est à peu près 7$, 6-7$ par disque.
Bandcamp, c'est vraiment la meilleure plateforme pour ça. Merci pour d'être avec nous, Jonathan, pour jaser des affaires qui s'en viennent. Et il y a bien entendu notre sphinx de résidence. Salut Jason.
Hey, bien le bonjour. Écoute, pour asseoir, j'ai décidé qu'on allait faire un petit break du Magic contemporain. Parce qu'en deuxième partie de show, je nous ai préparé une galette de lore qui s'étale sur les 20 ans de Magic. Quelque chose qui est du contenu original. Là, je pense pas que d'autres podcasts ou des créateurs de contenu ont déjà fait quelque chose là-dessus.
Whoa!
Quelque chose que moi-même, j'ai découvert en checkant des cartes random, là, des vieilles communes. Là, puis là, j'ai relié les points et j'ai découvert une conspiration.
Tu as fait tes recherches.
J'ai fait mes recherches. Puis en première partie, je pense qu'on a tous joué à Magic en fin de semaine. Hein? Je pense que tout le monde, à part Jonathan qui travaillait trop. Toi, Tommy, t'as reçu du monde vendredi soir?
Les musées de l'absurde le vendredi, on joue tout le temps à Magic un petit peu. Puis on a fait pareil cette semaine. Là, à chaque fois, je me dis, il va falloir que je donne un petit peu d'amour à mes decks. Là, mais c'est parce qu'à ma fête, j'ai reçu un Obnixilis de New Capenna. Puis là, ça m'a donné comme une swing pour revoir mon deck de sacrifice avec les Hellbound Flayers, là, les monstres qui reviennent du graveyard, Undying, puis qui font du dommage égal à leur power. J'aime beaucoup ça, les decks de réanimateur. Puis là, ben avant, c'était plus noir-bleu, mais là, je suis rendu noir-rouge. Puis en tout cas, ça a été très plaisant. On a eu du plaisir, on était sous.
Et moi aussi, j'ai été sous en jouant Magic. Il y avait du tournoi old school vendredi soir que je suis allé. On était 17 joueurs, ce qui est notre plus gros turnout là, pour nos monthly depuis la fin de la pandémie. Là. La nature is healing, hein, les choses sur place. Puis j'ai essayé un truc, ça faisait longtemps que j'avais pas fait. J'ai bâti un deck des créatures regenerate avec Niviniral Disc. Ouais. Ce qui wipe le board, puis mes créatures ils restent là parce
qu'ils régénèrent. Ben oui, tes créatures ils régénèrent.
C'est une interaction qui est le fun parce que tu crées une espèce de game de bluff avec l'autre, tu sais, parce qu'il est tout le temps. Parce que faut que tu prennes des décisions dans le sens que tu te gardes du mana de côté pour régénérer tes créatures. Puis je trouve que ça fait un genre de sous-jeu le fun là, dans la game. Là, tu sais, l'autre il va essayer de double bolter ta créature, puis là, ben, tu sais, faut que tu prévois en conséquence, puis. C'est des mathématiques le fun. Puis toi, Andy?
Moi, je suis allé au premier draft basique en fin de semaine qui se passait à l'adversaire. On était 7. On était supposé être 8, mais finalement, il y a quelqu'un qui s'est désisté. On était 7, il y avait moi et Emmanuel de Terrain Basé directement. Toutes les autres, c'était des employés de l'adversaire, mais quand même, on a eu du plaisir. J'ai rencontré des nouvelles personnes. C'est, hey, j'ai dit qu'on était 7, mais c'est pas vrai, on était 6. On était supposé être 7, mais on était 6. Ouais. Et c'est moi qui ai gagné. Et c'est une. Tu sais, au deuxième match, je jouais contre Emmanuel et je l'ai planté. Fait que moi, j'étais correct, là.
T'as gagné, dans ma tête, sûr?
Oui. La seule personne. Je suis un bon joueur. La seule personne que je gagne jamais contre, c'est Tommy. C'est la seule. Fait que c'est ça.
Trop fort.
Ben, quand même.
Un draft de quoi?
On a joué à ben, le dernier set, le March of the Machine. Fait que c'était un draft de mom. Et j'ai eu, tu sais, je veux dire, sur Arena, ça va bien. Là, comme je disais précédemment, là, j'ai fait mon premier set victoire. Mon deuxième match, je suis rendu à 5 ou 6 victoires. Mais je garde toujours le truc. Et ça, c'est le truc pour les gens à la maison qui passent leur temps à être en crise contre Arena. Faites ça un par jour, un par deux jours. Vous jouez pas trop, parce que sinon, vous allez vous brûler. J'ai eu un deck, dans le fond, c'est Grixis, noir et vert?
Non.
Non, c'est Golgari.
Ben, c'est noir, dit noir et vert. T'as pas
noir et vert, Golgari. Ben, c'est pas grave. Fait que j'ai sorti mes quatre cartes vraiment qui ont fait mon grand succès. La première qui est la Archpriest of Shadows. C'est une Human Warlock Backup 1, Death Touch. Whenever this creature deals combat damage to a player or battle, return target creature card from your graveyard to the battlefield. C'est une 4-4. Ça a fait la job. Et c'est en plus, c'est Backup 1, ce qui veut donc dire que ça donne jusqu'à la fin du tour le Death Touch et que si ça fait des dégâts à une bataille ou à un joueur, tu peux prendre une créature de ton graveyard puis tu mets directement sur le battlefield. Ça a du potentiel fort.
Effectivement, c'est mon genre de carte, ça.
Exact. On a ici, évidemment, l'invasion de Ixalan.
Oups, ah, ça, c'est fort, ça.
Ouais, c'est très fort. C'est pas mal. Ça a été ma première carte, mon premier pick, puis je fais, bon, ben, je pense qu'on va s'aligner vers ça. Ce qui est fort, c'est que tu choisis, son premier power, là, c'est que tu choisis 5 cartes, tu prends un permanent, tu le mets dans ta main, tu prends les autres et tu le mets en dessous du deck. Et je tiens à dire à la défense d'Arena que contre Emmanuel, j'ai Ixalan, puis les 5 cartes, c'était 5 laines. Fait que je me suis sauvé de 5 laines, qui allait, tu sais, d'une run de 5 laines. Genre, fait que j'étais assez fier de moi. Évidemment, ça, je pense, ça a déjà été la carte de la semaine. Et ça, Jason, tu vas être content. J'avais 3 Converter Beast.
T'en as pris 3? T'as suivi mes conseils?
J'ai suivi mes conseils. Hey, ça fait la job, honestie.
C'est bon. 5,
parce que
5,
ça sert à faire des combos aussi. Puis j'avais ben, je l'ai pas sorti dans mes mains, mais j'avais le dragon. Le gros, ben, attends, je vais aller chercher, ça prend 2 secondes. Le gros dragon qui est, je l'ai ici. Donnez-moi 2 secondes.
Le dragon ici. Qui est combo.
Ouais. Le Hoarding Broodlord.
Ouais.
Que dans le fond, c'est que quand tu la convoques, elle est 8, 3 noirs, 5 colorless. Quand tu la rentres dans le battlefield, tu vas chercher une carte, n'importe laquelle, tu l'exiles, puis tu peux la payer, la carte, n'importe quand. Puis en plus, cette carte-là, elle est convoque, si tu veux. Fait que les sorts en exit.
On s'en fout de Broodlord, là. Parle-moi comment Converter Beast, c'est une bonne carte.
Mais ça sert justement pour le Broodlord, ouais. Quand tu penses. Puis tu sais, j'avais un peu comme dans ma bataille du sur Arena, j'avais aussi le Elvish Vatkeeper, qui est quand même pas pire.
La
staple là, de ouais. Noir et vert. Et elle double. Tu payes 5, tu transformes un incubateur et ça double. Fait que oui, à un moment donné, je me suis ramassé avec 2.
10-10.
2-10-10. Et voilà. Fait que non, ça a bien été. Je suis très satisfait. J'ai été surpris de ce deck-là parce que c'est arrivé 4 fois sur mes 6 matchs que j'étais à 1 point de vie. Puis que je faisais juste comme, tu sais, comme à 1 ou à 2 points de vie, puis que l'autre était certain en train de me tuer, puis moi j'avais comme tout le temps une réponse, soit aller chercher quelque chose au battlefield. Ouais. Soit aller chercher de quoi au battlefield, ou soit juste comme, tu sais, trier dans mon library pour essayer de trouver une carte qui va me sauver la vie pour le. Fait que ça. Non, c'est bien plaisant. Moi, je sais que Tommy, toi, t'as eu des mauvaises expériences avec Mom. Moi, c'est que des belles expériences avec Mom jusqu'à maintenant. Là,
fait que, moi, la dernière, j'ai gagné. C'est correct. Ça a été
okay, bon.
Pardonné.
Mais c'est un set qui est vraiment le fun, je trouve. Il est bien balancé.
Moi, c'est un de mes meilleurs. Tu sais, je voulais en parler, là. C'est un de mes meilleurs. J'ai juste fait le pré-release, puis le reste, je l'ai fait sur Arena 3-4 fois. Là. J'ai uploadé une vidéo d'ailleurs de mes récentes drafts. Mais c'est un de mes meilleurs drafts, je dirais, depuis Terros Beyond Death.
Je te crois. Puis je suis d'accord.
J'ai vraiment beaucoup de fun.
Puis tu sais, je veux dire, en personne, parce que c'est plus facile de le voir en personne, on a eu beaucoup de 2-1. Fait que tu sais, sur les 6, on était un qui avait perdu tous ses matchs, un qui avait gagné tous ses matchs, et tous les autres avaient fait du 3. Tu sais, fait que tout le monde a fait du
3. C'est super serré. Quand le monde comprend les archétypes, là. Ouais. Les games, c'est tout le temps, t'es tout le temps sur la fesse.
Exact. Et ça prouve que, tu sais, je veux dire, on avait toutes des couleurs, évidemment, on avait toutes des couleurs différentes, mais tout le monde avait sa force ou cette manière de faire qui faisait que c'était pas gagné d'avance parce que j'avais sorti la grosse carte.
Bien balancé. Vas-y.
Les combat tricks sont le fun. T'as toujours l'impression que la carte que t'as dans la main, tu vas être capable de la jouer avec un petit sourire en coin.
Exact.
La façon qu'ils ont réussi, incubate. Ce qui est une mécanique comme Phyrexian est vraiment plus plaisante à jouer, puis tu vois le payoff plus tard comparativement à Toxic qui laisse un goût amer dans la bouche des adversaires.
Je suis d'accord. Puis tu sais, je veux dire, le nombre de fois justement que c'est peut-être juste mon deck, mais il me semble que non, parce que j'ai vu comme Emmanuel, mettons, wiper au deuxième match extrêmement vite avec le monk qui fait du prowess. Fait que là, ça doublait, tu sais, il y avait plein de prowess puis des monks qui popaient, mais ça, quand ça partait, tu sais. Ouais, exact.
Mais ça, c'est comme une mythique. C'est une anomalie quand t'as pas une.
Clairement, mais ça a été vraiment plaisant. Puis je recommande tout le monde à venir. C'est vraiment le fun à l'adversaire. Puis en plus, on a comme pas la salle à nous tout seul, mais tu sais, eux, ils ouvrent l'après-midi pour les gens un petit peu en dehors de la marge. Donc, il y avait du monde qui faisait du Warhammer, il y avait du monde qui faisait du Donjons et Dragons. Fait qu'il y avait nous autres qui avaient nos tables. J'invite tous les gens. Je sais qu'ils veulent faire à peu près soit une à deux fois par mois. Vous allez le savoir bientôt, évidemment, sur Terrain Basique ou dans le Discord, mais c'est... Puis en plus, vous pouvez venir nous rencontrer, ce qui est fantastique. Là. Emmanuel est un être charmant et génial. Fait que voilà. J'ai pas fini mon love. Je suis encore love struck d'Emmanuel, là, mon bro love struck. Là.
Ben, merci beaucoup pour ça. Toi, Jason, tu voulais nous rajouter un petit quelque chose avant qu'on aille vers la carte de la semaine.
Oui, non, c'est Wizard of the Coast a annoncé cette semaine, c'est ça qui fait jaser le monde. Hein. La semaine passée, c'était les Pinkerton. Là, cette année, cette semaine, c'est le Standard. Ouais. Donc, ils ont annoncé que à partir de Trône de Wilds of Eldraine au mois de septembre, il n'allait pas avoir de rotation. Parce que dans le fond, ils vont allonger le Standard à 3 ans. Fait que la rotation va avoir lieu aux 3 ans plutôt qu'aux 2 ans. Ça veut dire qu'on va pas perdre Innistrad puis Kamigawa qui était censé partir au mois de septembre. Ce qu'ils veulent, c'est ramener le Standard dans les magasins là, parce que je pense plus qu'il y a de magasins qui run du Standard.
Il y en a dans mon coin là, mais je suis dans le coin hipster, fait que le mardi.
Ouais, c'est l'expédition ça.
Je ne sais plus si c'est l'expédition ou la Alt-F4, mais genre...
Il n'y en a pas beaucoup. C'était plus ça mon point. Hein.
Ouais. C'est comme si vous oubliez les hipsters du plateau, il en reste plus. Hein.
Je pense pas que ça va changer grand-chose parce que dans le fond, ça va... Tu sais, comme... Moi, je pense que la principale faiblesse de Standard, c'est pourquoi tu paierais 200$ pour t'acheter un deck que tu vas perdre après 3 ans.
Ouais.
Que tu pourras plus vraiment jouer avec, alors que tu peux pour le même prix t'acheter un deck de Pioneer qui, tu sais, comme c'est tout le temps bon.
Pioneer, Modern ou
j'ai ouais, Modern sont rendus plus dans le 1000$, là, mais on se comprend.
Ah ouais, on se comprend que la rotation, c'est ce qui écœure le plus. Là.
Ouais. Puis t'as Safro Olive de MTG Goldfish. Il a calculé la moyenne des coûts des decks de Standard depuis 2015. Il a même ajusté ça à l'inflation. Là. Allez voir sur Twitter. Vous écrivez MTG Standard Price Deck, whatever. Vous allez voir les tableaux. Là. C'est, dans le fond, là, les prix de decks de Standard ont somme toute toujours été à peu près le même prix là, entre 100 et 300 depuis 2015. Fait que, ça n'a pas vraiment augmenté de beaucoup. Mais les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à la place, ils investissent dans d'autres formats. Fait que je pense que c'est ça qui a tué le Standard. Fait que, tu sais, où les gens vont jouer à draft. Moi, je pense que les formats draft, ça, c'est bien plus le fun que jouer à
Standard. Absolument.
Les formats draft, c'est intéressant. Moi, les je suis d'accord avec toi. Je pense pas que ça va nécessairement créer un boom d'intérêt parce que généralement, quand j'entends parler le monde Standard, sans même connaître les prix, ils pensent toujours au fait qu'il n'y a pas de point d'entrée. Fait que c'est plus un aspect de que les données ou non reflètent la réalité, le fait, le monde sont convaincus que Legacy pis Standard, c'est hors de prix. Moi, ce que je trouve un petit peu plus intéressant qui risque de découler sur les autres formats, c'est que on s'entend que il y a des facteurs qui influencent le prix des singles puis les prix des boîtes de booster. Puis présentement, ce que je vois dans les commerces, c'est que des fois on attend que la rotation arrive pour que les commerçants se débarrassent de leur carte ou comme il y a eu un rabais ou qu'il y a une chute de prix par rapport à certains singles pour les ramasser dans les formats qui tournent pas. Fait que ça crée une diminution du risque auprès des commerçants qui risquent de peut-être plus intéressés de peut-être pas nécessairement vendre la carte à 300$ une fois. Ou tu sais, comme il y a peut-être une gestion du risque qui pourrait peut-être arriver. Puis il y a aussi, comme je dis, les booster box que certains détaillants seraient peut-être frileux parce qu'ils ont peur d'être pogné avec. Comme mettons, Streets of New Capenna a pas super bien pogné de ce que je comprends. Puis si t'as 3 ans pour t'en débarrasser au lieu de X nombre de mois, ça risque de peut-être avoir une influence. Mais là, je spécule dans le tapis. Mais pour l'instant, moi, la seule affaire, c'est que j'ai tendance. Les cartes qui m'intéressent, des fois, j'ai tendance qui sortent de la rotation. Fait qu'il faut que j'attende un an de plus pour l'avoir dans mon deck de Commander.
Moi, si j'ai bien compris, ceux qui trippent Standard, donc probablement les pros et etc., c'est que ça va bonifier la diversité dans les decks, là, dans la méta, là, parce que tu rajoutes un 2-2 à 3-7 de plus dans ton Standard. Là, fait que,
ouais. Ben, comme Safran Livre mentionnait, puis j'espère qu'il va y avoir un effort en design, c'est que ce serait le fun qu'il y ait des mécanique qui synchronise à l'extérieur de comme qu'il y a un callback dans Throne of Eldraine sur ce qui s'est passé mécaniquement parlant dans, je sais pas moi, avec les Daybound, Nightbound, c'est quelque chose que ça c'est pas
quelque chose qui bonifie quelque chose qui existe là. Ouais, parce que j'avoue que le Daybound, Nightbound là, on n'entend plus parler hein.
Ouais. Mais bon, c'est mon
avis. Mais t'as raison, hein.
C'est ça?
Ouais, écoute, on joue pas standard, fait que, tu sais, on
c'est parle ça, pour les non plus. Moi, je me fais des decks pas tantriques pis pas standard.
Moi, je suis juste en limité, là, fait que.
Moi, je travaille.
Très limité. Toi, tu travailles. Fait que, peut-être un vendredi, tu viendras avec ton deck de Commander. Hey, c'est vrai, on a joué Commander pis c'était. Ça a été long, là.
Ben, c'est.
On aurait pu jouer 2 games à la place, puis quelqu'un qui aurait pas été se poigner le cul dans le salon. Là. Fait que, on s'en va vers la carte de la semaine. Une présentation de l'adversaire 4303 Sainte-Catherine-Est. Allez voir sur Facebook pour le calendrier des événements et le reste, surtout quand Emmanuel est là, si vous voulez vous faire signer quelque chose ou chatouiller. En attendant, on va écouter une petite tranche de beat à bonde pour aller vers la carte de la semaine. J'ai une toune de Man at Work dans la tête depuis une couple de jours, puis j'en suis pas triste, je l'aime bien gros. People just like to play with words.
Ouais, c'est bon ça.
Un band australien de jadis, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de faire. On est encore à terrain basique. On va parler de la carte de la semaine. C'est pas moi qui l'a décidé, je ne sais pas c'est quoi qui s'en vient. Que s'en viendra-t-il?
Écoute, c'est une carte de la semaine inspirée par. J'étais dans un magasin il y a une couple de mois, là, puis il y avait deux personnes qui fouillaient dans la boîte de bulk, là, tu sais, les vieilles cartes là, qui n'ont plus de valeur. Et il y a quelqu'un qui a sorti une carte, puis là, il se moquait de la carte. Il disait, ben voyons donc, on voit que Wizard of the Coast a imprimé cette carte-là. C'est donc ben mauvais.
Bah, pourquoi, encore le pourquoi, petit pourquoi, Wizard tu... de 8 de casting cost, un morph, là.
Ah, comme tu l'as vu venir, Tommy?
Ben, c'est la carte la plus que tout le monde... Je sais pas de quoi tu parles, c'est-tu lui?
Ben, c'est exactement ça. C'est le
Scornful, les gars. Yeah, quel classique.
On l'a jamais fait à terrain basique, mais je me suis dit qu'elle méritait sa place pour que, tu sais, comme c'est
wow, ouais,
un classique. Il fallait qu'elle soit une carte de la semaine un jour. Puis les gens dans le magasin ils m'ont dit « Jason, il doit savoir pourquoi ça a été fait. » Puis « Hey, Jason, pourquoi ils ont imprimé ça? C'est dommage de la merde. » Mais Scornful Egotist, 7 colorless, 1 bleu, 1-1, Morph pour un bleu à Morph, si tu payes 3 colorless, tu en mets en jeu à l'envers. C'est une créature 2-2. Puis là, tu peux payer un bleu pour la virer de bord. Et tu as ton 1-1 qui coûte 8. Et effectivement, quand tu vois, c'est une commune, ça vient de Scourge, on est à l'hiver 2003.
C'est donc bien mauvais.
Oui, c'est quand tu regardes ça.
C'est particulier. C'est
ben, j'essaie de voir que ça, à quoi ça peut servir. Puis...
Ben, c'est ça, tu sais, tu dis ça, un 1 pour 8 qui a Morph, à quoi ça sert? Ben, si tu sors la carte hors de son contexte, c'est vrai que c'est vraiment niaiseux. Mais quand tu la mets dans son contexte, ça fait totalement du sens. Parce que dans Scourge, il y avait une mécanique. En fait, là, c'était un archétype. C'était selon le casting cost de tes permanents. Je vais te donner un exemple. Rush of Knowledge, pour 4 colorless, un bleu, tu pigeais un nombre de cartes égal au plus gros converted mana cost que tu avais parmi tes permanents. Ou Reward the Faithful, qui fait la même chose, c'est que tu gagnes des points de vie selon le plus gros casting cost. Tu avais plusieurs cartes comme ça. Là. Chaque couleur avait sa commune, sa uncommon, sa rare. Fait que, tu sais... Généralement, une mécanique comme ça, va falloir que tu attends longtemps parce que tu te dis, je veux un casting cost gros. Ben, une affaire qui coûte 8, ben, va falloir que tu attends comme loin dans le game avant que tu es capable de faire. Mais Scornful Egotist, ça te permet de le faire tour 2 ou 3, dépendamment si tu
rates. Ah non. Ça coûte 3 colorless à sortir, ça n'a pas de bon
sens. Non, mais mettons, tu joues vert et bleu. Là, tu sais, War Elf, là, tu sors.
Ok. T'es safe au premier but, c'est correct. Ça a été
le but, c'est d'avoir comme au quatrième tour minimum, t'as un casting cost de 8 sur la table. Puis là, tu peux faire tes gros spells. Et après ça, les gens se sont mis à build around autour de cette carte-là. Puis c'est pour ça que je trouve qu'elle mérite quand même sa place. Deux cartes de la semaine, parce que t'as plusieurs effets qui ont rapport, tu sais, comme Sacrifice, tu vas sacrifier une créature, ça va te donner un nombre de mana égal à son casting cost, ou le bon vieux Omari de Spawning Bed, hein, il va faire un nombre de tokens égal au nombre de mana cost de ta créature en jeu que tu sacrifies, ou le Kaboom qui est dans Onslaught pour 4 colorless, un rouge, tu choisis n'importe quel nombre de joueurs et pour chacun de ces joueurs-là, tu vas révéler une carte du top de ta librairie jusqu'à temps que tu révèles une non-land, par exemple ton Egotist, puis là ça va faire un nombre de dégâts égal à son mana cost. T'as d'autres sortes de twists que tu peux faire aussi, surtout en Commander, c'est il y a plusieurs cartes qui l'effet Birthing Pod, c'est que tu sacrifies une créature et tu vas tutorer dans ton deck une créature qui a le casting cost de la marde que t'as sacrifié pour. Fait que tu sais, Birthing Pod, Neoform puis In Search of Greatness, ben tu sacrifies ton Egotist que t'as sorti au tour 3 ou 4, puis là tu peux aller chercher un Platinum Angel, un Memnarch ou un Cityscape Leveler et tu le mets direct sur la table.
Moi je viserais plus, il y a des cartes que tu peux jeter cette carte là puis qu'il arrive des affaires dépendamment du casting cost de la carte.
Oui aussi, mais c'est tu sais, t'as toutes sortes de façons là, de le cheater. C'est la carte comme telle seule ne fait rien du tout, mais c'est des stratégies qui care à propos du casting cost. Et si vous allez sur Gatherer, vous allez voir Scornful Egotist dans le Gatherer, vous allez voir les comments. C'est un peu comme sur YouTube, hein, t'as les comments. Et on se rend compte là, qu'aux alentours de 2011, la carte avait été comme redécouverte et les gens, il y avait un meme, c'était All Hail the Great Lord Egotist. Et vous allez voir, il y a beaucoup de commentaires en caploc là.
Ben ouais, je vois ça.
Des gens qui se moquent de la carte.
J'ai une question. Mm-hmm. Technique, dans le fond, c'est que si tu la sors sur quand tu la morphes, donc tu la sors pour 3, là, sa valeur, c'est 3.
Non, c'est 8.
Mais ma question, c'est que tu sais, comme les sorts que tu casses qui dit le plus haut casting cost, mais là, en théorie, la personne ne le voit pas. Ne sait pas que tu as une 7.
Non, mais si t'as sacrifié pendant qu'il est turned down, son casting cost est de 0.
Ou, non, mais je parle, tu sais, immédiatement. Ah, ouais, non, ok, ça, je comprends, mais immédiatement après, là, t'avais des sorts qui disaient comme le sort, il fait tel effet selon le casting cost. Mais là, ta carte est cachée. Fait que
tu fais pas ton spell pendant qu'il est caché.
Ah, ok, c'est ça, c'est que ça coûte 4 pour avoir une 8 sur la table.
C'est ça le concept. Ou ça va te coûter parce que tu vas essayer la ramper, fait que tu vas sortir ça tour 2 ou 3. Là.
Je comprends. Il y a le Colossus que j'aime bien. Que tu révèles le top de ton dans le rouge là, parce que c'est tough pis en rouge tu révèles des cartes du top de ton deck puis un adversaire a le choix de manger le dégât égal au casting cost ou de faire piger des cartes.
Ouais.
Fait que tu sais ce genre de dynamique que t'as même pas besoin de le mettre en jeu, juste le fait que t'as des gros casting costs. Puis les Wizards, ça a une synergie partout dans Magic. Je fais que je suis pas mal sûr qu'il y a des affaires comme Revel des Wizards avec des casting costs. Ou si c'est pas fait, ça s'en vient.
Ben c'est vrai qu'elle est rendue Wizard, là. Fait que, elle est Wizard en plus, fait que ça a comme plein d'applications récentes.
Ouais. En tout cas, à réfléchir, si vous avez des combos, n'hésitez pas à les partager sur notre page Facebook. Ça va être ça pour la carte de la semaine. Le Scornful Egotist. Même moi, j'ai jamais mis ça dans un deck. On va s'en aller vers la deuxième partie de l'émission du gros lore, mais avant, une petite tranche de Beat à Bone.
Salut les magiciens! Vous voulez savoir combien de laine on met dans un deck? Vous êtes tanné d'attendre le prochain numéro du Scry? Vous voulez donner une leçon au petit Chris d'Antoine et son deck de prison dans la cour d'école demain matin? N'attendez plus! Terrain basique! 5 cassettes qui vous donnent les meilleurs trucs pour être le joueur de Magic que vous avez toujours voulu être! Chaque cassette comporte 45 minutes de discussion décontractée par nos animateurs, avec des segments tels que Tommy et ses chroniques de Val d'Or, Emmanuel et la méta type 1 à Cowansville, long prix à la fin de ton tour. Et bien sûr, sur le B-side, Andy qui chiale encore. Et le segment favori de tous, la carte de la cassette. Pour seulement 4 paiements faciles de $5.99, Visa et Mastercard acceptés. Mais ce n'est pas tout. Appelez dès maintenant et on vous offre en prime le dernier mixtape de Bone, Terrain basique. N'attendez plus, commandez maintenant. Pour obtenir vos cassettes de Terrain basique, appelez au 1-666-666-6666 et préparez votre Visa ou Mastercard. Terrain basique. Des conditions s'appliquent, non disponibles en magasin. Les Wallowwood sont à Tommy.
Fait que là, t'as dit que t'as monté un dossier qu'on est les seuls à avoir qui date de 20 ans avec les rengaines pis tout.
Exactement. Checkez bien ça, checkez bien ça. Non, c'est un truc là, que ça fait longtemps que je voulais en parler, puis j'attendais une semaine où ce qu'on n'a rien à parler pour en parler. Hein. C'est un bon filler. Vous voyez mon écran, oui. Dans les hearts de Magic, t'as beaucoup de représentations de lune. Mm-hmm. Qu'on pense là, dans le set original, Bad Moon, hein, qu'on voit l'espèce de lune méchante dans le ciel. Blood Moon qui change toutes les non-basic lands en mountain. C'est quelque chose de très, très, très commun. Puis j'ai tout le temps été un fan des décors où ce qu'on voit une espèce de lune maléfique. Là. Ça donne une ambiance. Là. Je trouve ça vraiment beau sur la table.
Et ça existe en plus, la Blood Moon, c'est quelque chose qui existe.
Oui, un phénomène qui est réel.
Un phénomène atmosphérique puis tout.
D'ailleurs, si vous avez eu la chance, là, il y avait l'éclipse en 2021 ou 2022. Non, c'est en 2022, ouais. J'avais réveillé mon gars à 2h du matin pour aller regarder ça. La lune était rouge de cette façon-là. Bref. Et bien sûr, là, tu te dis, c'est cool si tu es capable de ficeler du lore autour de ta lune. Dans le set légende, tu avais une carte, juste comme ça, une idée lancée comme ça. Je suis sûr que c'était pas voulu, mais c'est ça que ça l'a donné. La Cathédrale of Serra. Je vais pas m'attarder aux mécaniques des cartes. C'est du lore exclusivement sur les hearts. OK?
OK.
Dans Cathédrale of Serra, là, riez pas, là, ça c'est vraiment une carte de marde, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est que ça montre, c'est la cathédrale de Serra, hein, qui ça fait référence à Serra Angel. C'est du set de légende sorti en 94. Mark Poole, il avait fait une l'image, on voit, il y a deux lunes. Moi, selon moi, il a juste dit, hey, je pense que juste mettre une lune, si j'en mets une deuxième, tu sais, ça rajoute un aspect fantasy cool, puis. Tu sais, ça ajoute au dessin. C'était juste lancé comme ça, là, sans aucune arrière-pensée. Cependant, t'as un autre artiste qui s'appelle Pete Venter, qui, au tournant de l'année 95, a eu la job de Wizard de « Astar, mon Pete, tu t'occupes de tout ce qui est le lore. » Il était le coordonnateur de... Il appelait ça le coordonnateur de la continuité, hein, le « continuity director ».
C'est une job, ça, dans une affaire comme Magic, que toute l'histoire puis les infos se passent par snippet, là, ça t'en fait des affaires à checker.
Oui, Pete Venter, on lui donne notamment la fameuse carte de Dominaria, et moi, je pense qu'il a vraiment trippé sur le dessin de Cathedral of Serra, parce que après ça, il a fait en sorte que les artworks des sets, à partir de l'année 96, ont deux lunes représentées dessus. Fait que quand on arrive à Mirage, sorti en septembre 96, toutes les cartes qui a des lunes sur le dessin, on voit deux lunes. Fait que Mirage, ça se passe sur le plat de Dominaria, hein, c'est l'espèce de continent africain. Et vraiment, tu sais, comme le Basic Swamp, on voit deux lunes. Le Grave Bane Zombie, on voit deux lunes. Le Auspicious Ancestor, deux lunes. Seed of Innocence, hein, deux lunes dans le top. Des fois, c'est pas tout le temps évident. Il faut vraiment que tu prends ton temps à checker le Ekindu Cyclope. Ekindu Cyclope, on voit deux lunes. Fun fact aussi, le gars s'amusait à dessiner un gros pénis et des champignons en forme de pénis.
Ben ouais, toi.
Ça, c'est le running gag de Rubber Bliss. Toutes les cartes de Rubber Bliss dans Magic ont des pénis cachés. Vous amusez
enfin.
À
enfin!
Mais bref, c'est ça. C'est, et il a continué ça dans Vision, hein, qui est le set qui est suivi après. Blanket of Night, on voit deux lunes. Everglade, le laine, on voit encore deux lunes. Fait que c'était tout, t'as tout le temps une lune qui est une espèce de boule vraiment éclatante. Il l'appelle la Glitter Moon. Et l'autre lune est un peu comme embrumée. C'est la Mist Moon, la lune qui est dans le brouillard.
Fait que là, il y a deux lunes sur Dominaria.
Ça, fait qu'il y a cimenté le fait que dans Mirage et dans Vision qui se passe sur Dominaria, il y a deux lunes.
OK.
Ça a continué dans même là, dans la cinquième édition, qui était un core set. Fait que c'était, comme, c'était plus nécessairement dans le monde Mirage Vision, mais le core set de cinquième édition, ils avaient refait les arts. Dans le fond, c'était les mêmes cartes que dans le Alpha original, mais avec des nouveaux artworks. Et Pete Venter, on sent encore comme le Mons Goblin Raider, qui est un reprint, mais que le dessin est fait par Pete Venter. Il a mis deux lunes en arrière et
ben oui.
Ils ont refait le Bad Moon. Il y a aussi deux lunes. Fait qu'on est vraiment dans l'affirmation que Dominaria, il y a deux lunes. Pete Venter, son dernier set qu'il a fait, c'est dans Weatherlight, la carte Maureen Fenn, on voit deux lunes. Mais dans le fond, entre Mirage et Weatherlight, aussitôt qu'une lune est représentée sur une carte, elle n'est jamais tout seul. Et c'est, dans le fond, tu as toujours comme deux lunes en orbite autour de Dominaria. Là, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais à partir de Urza Saga...
Oh non!
Jusqu'à Dominaria en 2018, les deux lunes disparaissent. C'est que toutes les artworks qui montent des lunes, il va tout le temps avoir une seule lune. Darkest Hour, Alabaster Leech, Decree of Silence... Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Là, je vous ai juste mis quelques exemples ici. Là, mais quand tu regardes là, entre Urza Saga puis jusqu'à Time Spiral, il y a beaucoup de sets qui se passent sur Dominaria et il y a seulement une lune qui apparaît dans l'artwork. Je sais que à partir de ce moment-là, Pete Venter n'était plus en charge de la continuité. Ils avaient donné ça à quelqu'un d'autre. Et selon moi, c'était celui qui rappelait aux gens « Hey, si tu dessines des lunes, faut t'en mettre deux, tu sais. » Puis là, j'imagine dans le shuffle de staff, ils ont fait comme... Il n'y a personne qui s'est comme posé la question. Là.
Ça
là,
s'est perdu.
Ça s'est perdu pendant 20 ans. Quasiment 20 ans.
Non, moi, je sais que c'est... Tu sais, c'est deux lunes, puis il y en a une qui est clairement plus proche que l'autre. Fait qu'ils ont des cycles de rotation pratiquement égales, mais pas exactement égales. Fait que...
Pendant 20 ans, l'autre était en arrière.
Ouais. C'est ce qu'on peut comme rétroactivement penser. Mais bien sûr, on sait que c'est pas ça la réalité. Mais c'est sûr que in lore, il y a tout le temps eu deux lunes autour de Dominaria. C'est juste que sur ces dessins-là, ça donne qu'on les voit pas les deux.
Je sais pas, moi, prouve-moi qu'elle était pas en arrière, la lune.
Ah.
C'est une conspiration.
Fait que c'est seulement dans Dominaria, sorti en 2018, que. Tu sais, parce que à partir, dans le fond, là, de Mirodin en 2004, ils ont comme arrêté de faire des sets qui se passaient sur Dominaria. Fait que c'était plus important, tu sais, de se rappeler que Dominaria avait deux lunes. Fait que, tu sais, comme Ravnica, puis Alara, puis Lorwyn, ces sets-là, t'étais plus sur Dominaria. Fait que, tu sais, ça s'est comme oublié. Mais quand ils ont fait le retour sur Dominaria en 2018, là, ils ont vraiment fait un job de brainstorm. OK, c'est quoi Dominaria? C'est quoi les caractéristiques? Et ils sont mis comme à fouiller là, tout ce qu'ils avaient produit depuis le début. Et il y a quelqu'un qui a remarqué que, hey, by the way, Pete Venter avait enchâssé le fait qu'il y avait deux lunes sur Dominaria. Fait que les Basic Lands faits par Mark Poole, le même qui avait fait la Cathedral of Serra, dans Dominaria en 2018, se remettent soudainement à avoir deux lunes. Et il faut vraiment, tu sais, ils sont très subtils. Il faut vraiment que tu checkes là. C'est pas tout le temps évident, là, tu sais.
Mais il a changé son style de dessin, hein. Ouais. Je pense à ça. Ça va être entre le premier Mark Poole et le dernier Mark Poole.
Mais ces Basic Lens-là, by the way, sont un hommage des lens qu'il avait faites dans Fallen Empire. Dans Fallen Empire, il y avait les double lens. Si vous remarquez, ce qu'il faut vous checker, c'est les cadres de porte. Des lens avec les basic lens dans. C'est comme si c'était les mêmes ruines, mais plusieurs siècles plus tard.
T'es un esti de capoté, toi, Dermot.
Waouh!
Fait que c'est les deux, c'est Mark Poole. C'est Mark Poole qui s'est dit, hey, refais-nous tes Rune of Trocare, Ebon Strangle.
Il a changé pour le digital aussi.
Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est que finalement, ce qui a changé, c'est qu'il dessinait à la main, puis là, il est rendu avec du digital. Ouais, tout ça.
C'est sûr que c'est moins bon, mais bon, écoute.
Ben, c'est pas moins bon, c'est différent.
Le concept des deux lunes est gardé, et surtout de Dominaria nous a mis un peu plus de gras, hein, sur la patente. La carte Evra Alcyon Witness, qui est l'avatar 4-4 pour 6, qui permet d'échanger ton total de vie avec son power. Ça dit dans le flavor text, la lumière de la Null Moon prend une forme, un mirage qui devient comme une réalité, isolée d'un monde qui n'est plus là, dans le fond, c'est un peu ça la traduction. Et c'est signé The Fall of the Tran, hein, la chute des Tran. Les Tran, c'est la civilisation, la plus ancienne civilisation de Dominaria. C'est celle que... Oui, c'est comme l'Atlantide. C'est la civilisation super avancée que Mishra et Urza déterraient là, dans leur guerre des deux frères. On avait parlé l'automne passé. Alcyon, c'était la capitale de cette ville-là. C'est aussi les ancêtres de ce qui va devenir les Phyrexiens. Donc, c'est les Tran. Et dans Dominaria, tu avais la saga The Fall of the Tran, qui était une saga qui détruit toutes les lands. Et moi, ce que j'aimais beaucoup du dessin, c'est qu'on voyait une espèce de ville flottante. Et au-dessus, il y a deux espèces de cercles dorés qui représentent les deux lunes de Dominaria, avec des petites étoiles en dessous. Là. Mais c'est, dans le fond, c'est la représentation. Vous allez voir pourquoi c'est important dans quelques secondes.
Cool.
Et Fall of Tran était aussi un hommage à Armageddon, hein, qui était la carte qui détruit toutes les lands. Fait que c'était une façon de refaire Armageddon moins fort. Moi, je vous porte attention, là, portez très attention au cercle doré sur la représentation des deux lunes sur l'image de Fall of the Tran. Vous allez voir pourquoi c'est important dans quelques secondes. T'avais dans Dominaria United, sorti l'année passée, qui est encore un set qui se passe sur Dominaria. On a respecté encore une fois l'aspect des deux lunes. La saga Love Song of the Night and Day, on voit en bas du artwork, on voit encore deux lunes. Et Love Song of the Night and Day, ça fait référence à, tu sais, on a vu tantôt que c'était dans le set Mirage que toutes les artworks avaient deux lunes tout le temps en arrière. Ben, c'était une série de flavor text qui était un poème qui s'appelait Love Song of Night and Day, que quand tu les mets toutes ensemble, il y en a 19, je pense. Quand tu les mets toutes ensemble, ça fait comme une espèce d'histoire. La saga dans Dominaria United faisait référence à ça. Moi, je voulais juste mentionner qu'on voit les deux lunes sur le artwork. Et dans Dominaria United, il y avait surtout la carte, une commune Météroïte, 5 colorless. C'est un mana rock, hein, ça rentre en jeu, ça fait 2 dégâts à un target quand ça rentre en jeu, c'est un météorite qui tombe. Et après ça, tu peux faire un mana de la même couleur. Portez attention à la roche, ce qu'on voit notamment sur le top de la roche, je sais pas si tu remarques un peu, Tommy.
Ben, il y a une espèce de corps de cercle, là.
Ouais, de corps de cercle, comme une espèce
c'est
de
carapace. C'est un symbole phyrexien, t'es-tu en train de dire?
Non, ben...
C'est une pointe de cercle.
Ça ressemble un peu à ça. Lis-nous le flavor text, Tommy.
Material that dig site 165 beta confirmed to be of null moon origin. Immediate excavation assistance requested, Tolarian Field Dispatch. Donc, le matériel trouvé sur le site de fouille 165 bêta a été confirmé provenir de la lune d'annulation. On a besoin d'évacuer immédiatement.
D'excaver.
D'excaver immédiatement. Ouais. Fait que dans le fond, c'est le météorite, c'est un morceau qui est tombé de la Null Moon, hein, une des deux lunes. Celle qui était mentionnée aussi dans le flavor text de Alcyon Witness. Et tout ça nous amène, hein, dans le fond, comme je vous ai dit, l'espèce de demi-cercle qu'on voit, c'est le même dessin qu'on voit là, sur le Fall of the Tran, que je vous avais demandé de garder ça en mémoire.
C'est-à-dire qu'il y a de la civilisation, ça. Les Tran sont sur la Lune.
Ben, c'est que t'avais aussi, ils avaient fait dans Brothers War, ils avaient reprinté des cartes de Antiquities en... Il appelait ça les rétro-artefacts. Fait que le Jaloum Tome dans Brothers War, sorti au mois de novembre, ça disait, dans le flavor text, les glyphes, dans le livre, là, les glyphes décrit une machine Tran capable de contrôler une armée, mais la dimension ne fait aucun sens. Le texte me dit que ça a la grosseur de la Null Moon. Ça, c'est Urza qui dit... dans son journal. Là. Voyons, je comprends pas. Là, ça me parle d'une machine. C'est un vieux tome des Tran.
Ben, oh,
fait que le punch, c'est ça, c'est que la Null Moon serait un artefact des Tran elles-mêmes. Et cet aspect-là nous est montré notamment dans quelques ouvrages hors des cartes de Magic. Notamment dans le vieux comic book Ice Age sorti en 96. T'as juste une mention que orbitant autour de Dominaria, il y a deux lunes. L'une est naturelle et l'autre est une construction semblable au Dragon Engine de la guerre d'Antiquité entre les deux frères. C'est juste mentionné comme ça un truc au passage. Et dans le Duelist en avril 97, un texte écrit par Pete Venter notamment qui nous confirme que le Null Moon est un satellite artificiel. Et ça nous a été bien élaboré dans le roman The Tran, qui est sorti au début 2000, que pas beaucoup de gens ont lu, qui est un peu le prequel, là, le origin story des Phyrexiens. Je vous en fais un résumé, c'est là-dessus qu'on va conclure. C'est que, dans le fond, la civilisation des Tran, elle se déchire dans une espèce de guerre civile à cause que t'as un de leurs plus grands scientifiques qui s'appelle Yagmoth, et ce qu'il a découvert, c'est l'huile phyrexien, et il se met à faire des expérimentations avec ça, puis là, ben, tu sais, les têtes dirigeantes de l'Empire Tran disent, ben, tu peux pas te servir de ça, là, c'est dangereux, l'huile phyrexien. Ils savent pas que c'est de l'huile phyrexienne, c'est qu'ils viennent de découvrir cette espèce de substance noire.
On fait des recherches avant, ben oui.
Ben c'est ça, fait que là ça crée une grosse guerre, et Yagmoth, dans le fond, c'est le début de la phyrexie, il se met à transformer des gens en machines tueuses, puis là ça fait une grosse guerre. Et les Tran, pour stopper Yagmoth, ils construisent une espèce de gigantesque vaisseau, dans le fond c'est la Null Moon, là. C'est une espèce de véhicule flottant, et qui contrôle aussi les armées de robots des Tran. Et pendant la bataille, ben le Yagmoth, il réussit à prendre le contrôle mental des opérateurs de cette machine-là. Et ceux qui sont pas encore contrôlés, ben, pour éviter que toute la machine se ramasse contrôlée par Yagmoth, ben, c'est qu'il actionne le truc qui crée la lévitation de la patente. C'est ce qu'on voit sur le Fall of the Tran, en fait, l'espèce de cité qu'on voit au milieu, puis qui monte vers le haut, puis ça détruit toutes les LAN, là. C'est cette machine-là qui s'en va vers le ciel, c'est qu'il l'envoie dans l'espace pour tuer tout le monde à bord et éviter que Yagmoth en prend le contrôle et devient encore plus puissant. C'est un peu comme ça, ce genre de sacrifice-là qui condamne les Tran, qui les fait disparaître, mais en même temps, ça empêche Yagmoth de faire son completion. Fait que c'est l'origine de la... des fameuses doubles lunes de Dominaria.
Ah, c'est donc bien cool.
Tel que Pete Venter nous mettait sur le artwork.
Suis-tu le seul à trouver une occasion manquée? On vient de passer la nouvelle Phyrexie, ça aurait pu être tellement un gimmick avec cette lune-là sur Dominaria. Je trouve que c'est une occasion vraiment manquée d'utiliser la Null Moon.
Bon, je sais pas, sais, quand un empire construit un Death Star, les chances sont qu'il y en a un autre qui s'en vienne.
Ben ouais, mais là, c'est fini, là. C'est fini, les Phyrexiens, il n'y en a plus.
Ouais,
ils ont tout pété tout avec le virus, là.
C'est Jace est en train de refaire les forces, là, puis il va revenir, il va être le
chef. Ouais, Jace, ça va être le prochain.
Ouais, c'est ça, l'empereur, il est mort, il revient pas.
Non, c'est impossible. Je vois pas comment que ça pourrait. Et nous, il n'y a plus de Planeswalkers, ils sont tous plus Planeswalkers.
Il en reste
trois, genre.
Sauf le chat qui était Phyrexien, puis lui, il peut revenir. En tout cas, anyway. Merci beaucoup, Jason, pour cette snippet de lore. Merci à Jonathan. On peut rappeler encore l'artiste.
L'artiste, c'est X-Lide. L'album, c'était Till Sunrise.
Merci beaucoup pour ça. Et merci, Andy. Bravo pour ta victoire.
Un jour, je vais réussir à te planter, mon esti.
Un jour, mon esti, là-dessus, on va dire un gros merci à Martin Godette qui s'occupe du montage. Merci à Bond pour le beat, à Emmanuel pour son travail là, qui l'empêchait d'être avec nous ce soir.
Et à le gouvernement.
Oui, le gouvernement, 4303 Sainte-Catherine-Est. Là-dessus, mon nom est Tommy Godette. Et je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascrou possible.
Membre de la famille H2O Web Media.